Les des Grassins, qui ont appris la mort violente et la faillite du père de Charles, décident d'aller le soir même chez Grandet pour lui donner des signes d'amitié, mais aussi pour essayer de savoir pourquoi Grandet a invité les Cruchot. À 5 heures précises, le président Cruchot et son oncle, le notaire, arrivent. Ils se mettent à table et commencent à manger. Grandet est grave, Charles silencieux, Eugénie muette, et Madame Grandet ne parle pas plus que d'habitude. À la fin du repas, Charles dit à sa tante et à son oncle « Permettez-moi de monter dans ma chambre, je dois écrire plusieurs lettres. »«
Faites, mon neveu !» répond Grandet. « Madame Grandet, » dit-il en se tournant vers sa femme, « il est 7 heures. Vous pouvez monter dans votre chambre, car nous allons parler de choses que vous ne pourriez pas comprendre. » Et vous, ma fille, je vous souhaite une bonne nuit.
Monsieur Cruchot, dit Grandet au neveu, vous disiez que, dans certains cas, on peut empêcher une faillite.
Les tribunaux de commerce le font tous les jours. Quand un homme considérable et considéré, comme l'était votre frère, est menacé d'une faillite, le tribunal de commerce peut faire liquider ses biens. En faisant faillite, un homme est déshonoré. Mais en liquidant, il reste un honnête homme.
C'est bien différent, en effet, si cela ne coûte pas cher, dit Grandet.
La famille peut liquider aussi sans passer par un tribunal. Voulez-vous liquider les affaires de votre frère?
Oh, Grandet, s'écrie le notaire, ce serait bien.
Si vous sauvez votre nom, car c'est votre nom, vous serez un homme...
Sublime, dit le président.
« Mon frère se nomme Grandet, comme moi, c'est sûr. Et cette liquidation serait intéressante pour mon neveu, que j'aime. Mais il faut voir, je ne connais pas Paris, je ne sais rien de toutes ces choses-là. Je suis à Saumur, moi, voyez-vous. Et puis, je ne peux pas laisser mes affaires, abandonner ma maison. »
« Je vous comprends, dit le notaire, mais vous avez des amis. Si quelqu'un partait pour Paris et trouvait les personnes à qui votre frère devait de l'argent et leur disait
quelque chose comme « Monsieur Grandet de Saumur aime son frère, il aime son neveu et il a de bonnes intentions. Il a bien vendu sa récolte. Ne déclarez pas la faillite. Vous aurez davantage d'argent si vous liquidez sans passer par un tribunal. »«
Exactement, dit le président. »
« Mais je ne peux pas quitter Saumur, » dit Grandet.
« Eh bien, c'est moi qui vais aller à Paris. Vous payerez seulement le voyage. J'irai voir les personnes à qui votre frère devait de l'argent. Je leur parlerai et tout s'arrangera. »
À ce moment, un coup frappé à la porte annonce l'arrivée des Grassins.
« Grandet !» dit Monsieur des Grassins en lui tendant la main. « Nous avons appris le malheur qui est arrivé dans votre famille et la mort de votre frère. »
« Le seul malheur est la mort de Monsieur Guillaume Grandet, » dit le notaire. « Et s'il avait demandé l'aide de son frère, il ne se serait pas tué. Notre vieil ami, qui a de l'honneur, veut liquider les dettes de son frère. Et mon neveu va partir pour Paris pour s'occuper de cette affaire. »«
Ah, je le savais bien !» s'écrie le banquier.
« Cela est très bien, Grandet, vous êtes sublime !»
Alors. « Être sublime coûte bien cher, » répond Grandet.
« Mais c'est une affaire simplement commerciale. Écoutez, je dois aller à Paris pour mes affaires et je pourrais m'occuper de... »«
Nous verrons, » répond Grandet à voix basse. « Je ne veux pas prendre une décision maintenant. Parce que, voyez-vous, monsieur le président me demande l'argent du voyage. » J'aurais bien plus confiance en vous que dans le président. Et puis, je veux placer de l'argent. Pas beaucoup, pour commencer.
Je partirai demain,
dit à voix haute des Grassins en frappant sur l'épaule de Grandet. Les Cruchot et les des Grassins rentrent chez eux. Le père Grandet ferme sa porte et monte dans sa chambre. Il ne fait pas de bruit, car il ne veut pas réveiller sa femme ni sa fille. Eugénie, qui a cru entendre pleurer son cousin, sort de sa chambre et entend son père parler avec Nanon. Ils portent ensemble un barillet.
« Sainte Vierge, monsieur, comme c'est lourd !»
dit Nanon à voix basse.
« Ce ne sont pourtant que des gros sous !» répond Grandet.
« Oui,
mais il y en a beaucoup.
Fais-tu te taire, Nanon. Tu diras à ma femme que je suis allé à la campagne. Je reviendrai pour dîner. Je dois être à Angers avant 9 heures.
Grandet partit, personne dans le quartier ni dans la maison ne devine qu'il est parti ni pourquoi il est parti. Personne ne voit jamais un sou dans cette maison pleine d'or. Mais Grandet a appris le matin que l'or a doublé de prix et que des spéculateurs sont arrivés à Angers pour en acheter. C'est pourquoi il a décidé d'aller vendre le sien sans rien dire à personne.
« Mon père s'en va !»
dit Eugénie, qui du haut de l'escalier a tout vu et tout entendu. Dans le silence de la nuit, elle croit soudain entendre son cousin pleurer.
« Il souffre !» se dit-elle.
La porte est ouverte et elle entre dans la chambre. Charles dort sur un vieux fauteuil. Ses yeux tombent sur 2 lettres ouvertes. Ces mots qui commencent l'une des lettres, « Ma chère Annette », lui font battre le cœur.
Il aime, il est aimé, il n'y a plus d'espoir, pense-t-elle. Que lui dit-il ?
La curiosité est plus forte que tout et elle lit la lettre. Ma chère Annette, rien ne devait nous séparer, mais mon père s'est tué et sa fortune et la mienne sont entièrement perdues. Je viens de passer une partie de la nuit à faire des calculs. Si je veux quitter la France comme un honnête homme, je n'ai pas 100 francs à moi pour aller chercher fortune aux Indes ou en Amérique. Je ne retournerai pas à Paris.
Pauvre Charles, j'ai bien fait de lire. J'ai de l'or, je le lui donnerai,
dit Eugénie. Puis elle reprend sa lecture. Depuis ce matin, je regarde mon avenir.
Il est plus horrible pour moi que pour tout autre, car j'ai toujours été choyé par mon père et ma mère. Et puis j'avais ton amour.
Mais ce bonheur ne pouvait pas durer. Nous nous quittons donc aujourd'hui pour toujours.
Il la quitte !
Dit Eugénie en sautant de joie. Garde dans ton cœur le souvenir de ces 4 années de bonheur. Moi, je dois penser au mariage qui devient une nécessité dans ma nouvelle existence. Et je t'avoue que j'ai trouvé ici, à Saumur, chez mon oncle, une cousine qui te plairait et qui me semble qu'il devait être bien fatigué car il n'a pas terminé de lui écrire, se dit Eugénie.
Elle regarde son cousin qui est endormi et elle se jure de l'aimer toujours.
Puis elle commence à lire une autre lettre. Mon cher Alphonse, au moment où tu liras cette lettre, je n'aurai plus d'amis. Mais je ne doute pas de ton amitié. Je te demande de t'occuper de vendre mes affaires. Tu dois maintenant savoir dans quelle situation je me trouve. Je n'ai plus rien et je veux partir pour les Indes. Je viens d'écrire à toutes les personnes auxquelles je dois de l'argent et je t'envoie leur nom. Ma bibliothèque, mes meubles, mes voitures, mes chevaux, etc. suffiront, je crois, à payer mes dettes.
Eugénie laisse la lettre et part en courant dans sa chambre. Là, elle ouvre un vieux meuble, prend une bourse et compte sa petite fortune.
Elle met de côté 20 portugaises encore neuves, 5 génovines, 100 ducats de Hollande, des médailles en or et le double Napoléon de 40 francs que lui a donné son père le jour de son anniversaire. Elle possède presque 5 800 francs. Elle ne pense pas à la colère de son père si elle donne ce trésor à Charles. Elle ne pense qu'à son cousin et elle se rend compte qu'elle est riche. Lorsqu'elle entre à nouveau dans la chambre de son cousin, celui-ci est en train de se réveiller. Eugénie s'avance vers lui et dit d'une voix émue
« Mon cousin, je vous demande pardon parce que j'ai lu ces 2 lettres. Mais je ne le regrette pas car elles m'ont fait connaître votre cœur, vos projets et votre besoin d'argent. Voici, dit-elle en ouvrant la bourse, l'argent d'une pauvre fille qui n'a besoin de rien. Acceptez cet argent, Charles. Il vous portera bonheur et un jour, vous me le rendrez.
Écoutez, ma chère cousine, j'ai là quelque chose qui vaut pour moi plus que tout l'or du monde. Ce coffret en or est un cadeau de ma mère, et je vous demande de le garder pour moi. À l'intérieur, il y a deux portraits de sa mère, richement entourés de perles. Eugénie prend la boîte, émerveillée. Charles lui prend la main et l'embrasse doucement. « Allons, Charles, couchez-vous. Vous êtes fatigué. À demain. »